Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Des enjeux internationaux, Thierry, consacrés aujourd'hui aux télécommunications, un lien planétaire et aujourd'hui les câbles sous-marins.
Voilà, c'est l'occasion de saluer la sortie de la revue Hérodote, la livraison qui est consacrée à mer et océan, avec d'excellentes contributions souvent d'invités que nous avons ici, de temps en temps Jean-Sylvestre Lestremont-Grenier, Pierre Royer, également Sébastien Collin, Jean-Luc Racine et Camille Morel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez donné une contribution très originale et qui comble une lacune sur les câbles. Le titre exactement menace sous les mers les vulnérabilités du système câblier mondial. Alors contrairement à ce qu'on croit, l'essentiel des télécommunications se fait par la mer, sous la mer et non pas tant par l'espace, les satellites extra-atmosphériques. Alors vous soulignez évidemment, Camille Morel, que les deux sont interdépendants. Espace et fonds marins. Il y a à citer évidemment tout de suite l'évolution des techniques depuis un certain nombre de décennies, notamment la fameuse fibre optique. Alors on peut, d'un point de vue géopolitique, pour nous parler d'une géopolitique, comme on parle d'une géopolitique des tubes, les oléoducs, les gazoducs, on peut parler d'une certaine façon d'une géopolitique des tuyaux, on va dire, ou des câbles sous-marins. Ces câbles ont des activités civiles et militaires considérables. Et puis vous insistez dans votre article sur les vulnérabilités. On va en parler. Est-ce qu'on peut déjà donner un peu l'état des lieux, c'est-à-dire au fond, quelle est la réalité de ce maillage, qui va d'ailleurs très, très profond dans la mer, jusqu'à, vous me corrigez, je crois, jusqu'à 8000 mètres de profondeur.
Oui, il y a même, on peut même aller au-delà, je pense, facilement, très bientôt, mais c'est les raisons techniques qui poussent finalement à cette limite aujourd'hui. Alors oui, le système câblier mondial, il est aujourd'hui composé de presque 300 câbles sous-marins, de fibre optique, bien entendu. C'est énorme, puisque le système câblier permet, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport aux satellites, de transmettre plus de 95% des télécommunications mondiales. Donc, par télécommunication, on entend aussi bien les appels, les vidéos, que les données Internet. Et ces données, finalement, tout le monde les produit, tout le monde consulte Internet, que ce soit quand vous envoyez vos mails, quand vous faites une déclaration aux impôts, que vous faites vos soldes en ligne. Et puis, donc ça c'est un titre individuel, mais également pour les industriels, puisqu'on a toute une branche quand vous contactez au service, quand vous assurez de votre système de production. Et puis la finance, en fait, qui joue un grand rôle dans la transmission de données, puisque tout le trading haute fréquence se passe.
Et elle joue sur la rapidité, quasi-instantanéité.
On peut gagner des secondes considérables. Enfin, c'est en termes financiers, c'est ça qui est important, je pense, et qui rend l'infrastructure câblière critique. C'est vraiment son impact, en fait, sur l'économie mondiale aujourd'hui et sur la société.
Camille Morel, c'est une vieille histoire, d'ailleurs. C'est passionnant, l'histoire des câbles. Ça remonte à quoi ? Plus de 150 ans ?
Tout à fait, oui. La pose du premier câble commercial, elle date de 1851. Alors, c'était entre Calais et Douvres, et ça n'a pas duré très longtemps, évidemment. Mais le premier câble transatlantique, lui, il date de 1858. Donc, c'est effectivement une longue histoire du câble. On a eu plusieurs aires technologiques, d'abord le télégraphe, ensuite l'aire du coaxial, et puis donc pour tout ce qui est appel téléphonique, et enfin depuis 1888, la fibre optique qui révolutionne un petit peu cette technologie.
Alors, pourquoi est-ce que c'est un dossier géopolitique, c'est-à-dire qu'il associe à la fois la géographie, d'ailleurs la géographie des mers, mais aussi la géographie de la Terre, et notamment des côtes par définition. Et pourquoi est-ce qu'il est politique au sens noble du terme ?
Alors, je pense qu'il y a effectivement de gros enjeux géopolitiques derrière, à partir du moment où l'État a sa place dans le processus déjà de décision. Alors, c'est une infrastructure, je dirais, qui est quand même posée et décidée par des consortiums privés. Néanmoins, on a toujours une intervention étatique dans la prise de décision, dans l'autorisation également de poser un câble dans les eaux territoriales des pays. Donc le processus, il est politique de base. Ensuite, ce qui joue, c'est que effectivement, il y a des enjeux de pouvoir, puisque des
politiques de puissance.
Tout à fait, voilà.
C'est la géopolitique.
Pouvoir par l'information, la détention de l'information. On l'a vu notamment pour le renseignement. Edward Snowden, ça a révélé quand même une grande domination américaine sur la question. Donc depuis tout temps, il y a eu effectivement des coupures de câbles qui ont été réalisées au niveau étatique, au niveau militaire, et puis des prises de renseignements à partir des bases, donc là où s'échappe en fait, où retrouve la Terre le réseau sous-marin, on a...
Réseau physique, on va dire.
Tout à fait.
Solide.
Exactement, puisque voilà, c'est avant tout le réseau physique du cyberespace. Ça, c'est un enjeu avant tout géopolitique. On a une domination des pays, je dirais, du Nord au sens large. Évidemment, c'est pas tout à fait correct, mais aussi bien au niveau des acteurs de la pose et de la maintenance que...
Oui,
voilà, qu'au niveau effectivement de la domination du réseau, on est sur des logiques traditionnelles de puissance.
Alors, juste d'un mot, pourquoi au fond, alors c'est pas un cocorico, mais pourquoi la France est très bien placée en la matière, notamment elle a un secteur d'excellence dans la pose, un secteur d'excellence, je crois, historique dans la pose des
Tout
câbles.
Tout à fait, voilà.
Il y a Orange... Qui n'est pas une chose aussi facile, paraît-il.
Alors, c'est ça demande techniquement un grand savoir-faire, donc c'est ça en fait qui joue en notre faveur, et puis des moyens considérables, et on est bien placé aujourd'hui parce que Orange Marine a de nombreux câbliers, qu'il a un savoir-faire avec avant France Télécom, et qui était soutenu auparavant par les ministères des PTT, donc ça c'est effectivement un gros atout français. Il faut conserver cet atout français. Moi, c'est un petit peu là-dessus que j'attire l'attention parce que voilà, on avait Alcatel aussi avant qui a plus ou moins fusionné avec Nokia. Donc c'est un savoir-faire, certes, mais il faut le garder. Et je pense que c'est important. Et, il faut attirer l'attention là-dessus.
Alors, je rappelle aussi, je précise que vous êtes doctorante donc Camille Morel au Centre Lyonnais d'études de sécurité internationale et de la défense, le CLESID, c'est à Lyon 3. Vous travaillez pour la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Enfin bref. Ministère de la Défense. Et les vulnérabilités, vous insistez beaucoup. On parlait d'ailleurs, le hasard fait qu'on parlait tout à l'heure, avant les enjeux internationaux, de piraterie avec Jacques Munier. Alors bon, ça c'est un élément parmi d'autres, mais pourquoi ces câbles sont-ils d'abord peut-être physiquement vulnérables et que c'est un enjeu de pouvoir?
Bien entendu. En fait, c'est simplement que c'est une infrastructure physique dont on entend peu parler.
Discrète.
Très discrète, voilà, tout à fait. Donc je pense qu'il y a une volonté derrière. Par défaut, on n'en parle pas, donc elle se retrouve protégée. Donc peut-être que ce que je fais va attirer finalement les foudres.
Oui, mais c'est pour la bonne
pas.
Cause.
C'est pour la bonne. Mais oui, en effet... D'abord, comme je disais, pour le renseignement, c'est une menace traditionnelle. En fait, on a des menaces plutôt classiques, je dirais, qui sont de nature des ruptures accidentelles. On a le filet de pêche, tout simplement, et l'ancre qui provoque plus de 70% des ruptures annuelles. Donc c'est quelque chose de considérable. On a des ruptures plus naturelles, les cas de séisme, des tremblements de terre en Asie notamment. Là, on a vu récemment avec l'Inde...
Mais les tsunamis, justement, qui sont provoqués par des tremblements de terre sous-marins.
Sous-marins, ça a des conséquences considérables sur les câbles, ça fait nombre de ruptures. Donc ça met du temps à être réparé. Il y a plus de 15 jours de réparation pour réparer totalement un câble. Donc ça prend du temps. Il y a ces menaces-là. Puis il y a la menace de plus en plus, qui est historique, mais qui, pour moi, pose des problèmes aujourd'hui. C'est la question de la rupture volontaire. En fait, on a toujours eu, donc comme je vous l'ai dit, les États interviennent depuis 1898. On a des coupures volontaires de câbles sur les systèmes ennemis. En revanche, aujourd'hui, on a l'introduction d'acteurs privés. Donc la piraterie, on a eu un cas, c'est comme ça que j'introduis l'article. En cette année, en fait, il y a eu un cas de piraterie sur un navire câblier près de la mer Rouge. Ça a posé un véritable problème parce que, même si ce n'est pas un phénomène récent, même si on peut se demander si ce câble a été visé de manière volontaire, pourquoi plutôt un navire câblier qu'un autre, en revanche, on a toujours des faits depuis 2008 qui laissent à penser que les acteurs privés peuvent désormais intervenir sur les câbles.
Et ces acteurs privés peuvent être en sous-main soutenus par des États ou pas, où ça va venir?
Alors, il y a des suppositions, après c'est difficile à dire. Aujourd'hui, en 2007, il y a eu un cas de piraterie. Alors, c'est pas vraiment de la piraterie, c'est un cas de coupure de câbles par des pêcheurs en haute mer, près du Vietnam. On a laissé supposer qu'effectivement, l'État avait sa part de responsabilité. En tout cas, ne protégeant pas suffisamment la zone économique. Voilà, on a indirectement du soutien étatique.
Juste d'un mot, mais vraiment d'un demi-mot et d'une syllabe, le droit de la mer, que dit-il depuis 82?
Alors, c'est une importante lacune. On a depuis 1884 une première convention, donc c'est 30 ans après la pose du premier câble, c'est énorme. On a eu une convention qui a été mise en place. En revanche, aujourd'hui, elle est largement insuffisante, puisque en fait on ne dit rien du statut du câble en haute mer. Il y a une liberté d'action des États en temps de conflit, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie, le temps de conflit? Est-ce que ça donne un champ de liberté totale à l'État? La réponse est à... Et t'as donné.
Bon, il faudra y revenir parce que c'est un thème très riche. Merci Camille Morel. Je rappelle donc Institut Merci. De Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger.
Et demain, Chaudet, il demain. Sera question du Mexique. Et
Mexique, notamment la situation économique à l'heure d'une nouvelle présidence américaine, je ne vous apprends rien. Mais là aussi, c'est un sujet qui touche directement les deux États. Et Pierre Salama, notre invité, professeur émérite à Paris 13.
Merci beaucoup Thierry Garcin et Camille Morel. Et à demain Thierry.